34. La Mercedes quitte Spicer Boulevard et s'engage sur une voie de desserte jalonnée de panneaux indiquant « Livraison Mac » et « Accès réservé au personnel ». À 400 mètres environ, se profile un portail roulant. Il est fermé. Jérôme freine devant un poteau muni d'un interphone. Ici, le panneau indique « Sonnez pour ouvrir ». Hodges ordonne « Dis-leur que c'est la police ». Jérôme baisse sa vitre et appuie sur le bouton. Rien ne se passe. Il appuie une deuxième fois et laisse son doigt appuyer. Hodges est traversé par une pensée cauchemardesque. Quand quelqu'un répondra enfin à l'appel de Jérôme, ce sera la femme robot lui proposant de faire son choix entre 2 douzaines d'options. Mais cette fois-ci, c'est un véritable humain, quoique dépourvu de toute sympathie.
« C'est fermé à l'arrière !»«
Police !» dit Jérôme. « Ouvrez le portail !»«
Qu'est-ce que vous voulez ?»«
Je viens de vous le dire. Ouvrez ce putain de portail. C'est une urgence !» Le portail commence à rouler lentement. Mais au lieu d'avancer, Jérôme réappuie sur le bouton. « Vous êtes de la sécurité ?»«
Gardien-chef !» répond la voix grésillante. « Si vous voulez la sécurité, faut appeler le service sécurité. » « Personne répond, » dit Hodges à Jérôme. « Ils sont tous dans l'auditorium. Discute pas. Vas-y. »
Jérôme fait ce qu'on lui dit, même si le portail n'est pas encore entièrement ouvert. Il écorche le flanc de la carrosserie remise à neuf de la Merco. « Ils l'ont peut-être chopé, » dit-il. « Ils avaient son signalement. Alors peut-être qu'ils l'ont chopé ?»«
Non, ils l'ont pas chopé, » dit Hodges. « Il est à l'intérieur. »«
Comment vous le savez ?»«
Écoute. »
Il ne distingue pas encore les accents d'une vraie musique, mais par la vitre restée ouverte côté conducteur, ils perçoivent la progression sourde d'une basse.
Le concert a commencé. Si les hommes de Windham avaient coincé un type bardé d'explosifs, ils auraient tout interrompu et seraient en train de faire évacuer les lieux.
« Comment a-t-il pu entrer ?» demande Jérôme en cognant sur le volant. « Comment ?»
Hodges perçoit la terreur dans la voix du garçon. Tout ça à cause de lui. Tout à cause de lui. Je n'en ai aucune idée. Ils avaient sa photo.
Devant eux se profile une large rampe de béton, descendant jusqu'au quai de déchargement. Une demi-douzaine de roadies fument, assis sur des caisses d'ampli, leur boulot terminé au moins pour le moment. Une porte est ouverte sur l'arrière de l'auditorium et Hodges entend la musique s'agréger autour du riff de la basse. On entend un autre son aussi. Des milliers de filles hurlant leur joie, toutes assises à leur insu sur Ground Zero. Savoir comment Hartsfield a fait pour entrer ne compte plus, sauf si ça peut aider à le retrouver. Mais comment diable vont-ils pouvoir y arriver dans un auditorium plongé dans l'obscurité et rempli de milliers de gens? Au moment où Jérôme stoppe au bas de la rampe, Holly déclare
« De Niro s'était fait une crête iroquoise. Ça pourrait être ça ?»«
Mais de quoi vous parlez ?»
demande Hodges en s'extrayant péniblement de la banquette arrière. Un homme en vêtements de travail kaki s'est avancé dans l'embrasure de la porte ouverte pour les accueillir.
« Dans Taxi Driver, Robert De Niro joue un cinglé nommé Travis Bickle »,
explique Holly, tandis que tous trois courent vers le gardien.
« Quand il décide d'assassiner cet homme politique, il se rase la tête pour pouvoir s'approcher sans être reconnu. Sauf au milieu. Ça s'appelle une crête iroquoise. Brady Hartsfield n'a sûrement pas fait ça. Il aurait eu l'air trop bizarre. »
Hodges se souvient des cheveux dans le lavabo. Ils n'étaient pas du blond, sans doute teint, des cheveux de la morte. Holly est peut-être déjantée, mais il pense qu'elle a raison. Hartsfield y est allé le crâne rasé. Mais même comme ça...
Le gardien-chef s'avance à leur rencontre. « Que se passe-t-il ? »
Hodges sort sa carte d'identification et la lui présente rapidement, le pouce toujours posé à l'endroit stratégique.
« Inspecteur Bill Hodges, votre nom, monsieur ?»«
Jamie Gallison. »
Ses yeux passent brièvement de Jérôme à Holly.
« Je suis sa coéquipière, »
dit Holly.
« Stagiaire, »
dit Jérôme. Les Roadies observent. Certains ont prestement écrasé des cigarettes qui contenaient peut-être une substance un peu plus forte que du tabac. Par la porte ouverte, Hodges aperçoit des projecteurs de chantier éclairant un espace de rangement rempli d'accessoires et de décors de fond de scène.
« Monsieur Gallison, nous avons un sérieux problème, » dit Hodges. « J'ai besoin que vous demandiez à Larry Windham de venir ici tout de suite. »«
Ne faites pas ça, Bill !»
Même dans sa détresse croissante, il a conscience que c'est la première fois que Holly l'appelle par son prénom. Il ne l'écoute pas.
Monsieur, j'ai besoin que vous l'appeliez sur son portable. »
Gallison secoue la tête.
« Les gars de la sécurité n'ont pas de portable quand ils sont en service. Lorsqu'on a ce genre de grand concert, de concert pour jeunes, je veux dire, c'est différent quand c'est des adultes. Les réseaux sont saturés. Les gars de la sécurité sont équipés de... »
Holly tire sur la manche de Hodges.
« Ne faites pas ça. Vous allez l'effrayer et il va le déclencher. Je sais qu'il va le faire. »
« Elle pourrait bien avoir raison, » dit Jérôme. Puis, se souvenant peut-être de son statut de stagiaire, il ajoute
« Monsieur. »
Gallison les considère d'un œil alarmé.
« Effrayer qui ? Déclencher quoi ?»
Hodges reste concentré sur le gardien.
« Ils sont équipés de quoi ? Talkie-walkies ? Émetteurs-récepteurs radio ? Radio, oui. Ils ont... »
Il se touche l'oreille.
« Vous savez, un genre d'oreillette, comme le FBI et les services secrets ?» Qu'est-ce qui se passe, là? Dites-moi que ce n'est pas une bombe. »
Ce qu'il voit sur le visage blême et transpirant de Hodges ne le rassure pas.
« Seigneur, c'est ça ?»
Hodges passe devant lui et entre dans la zone de dépôt caverneuse. Au-delà du capharnaüm d'accessoires, de décors et de pupitres à partition, il y a un atelier de menuiserie et un atelier costume. La musique est plus forte que jamais et il commence à avoir du mal à respirer. La douleur redescend dans son bras gauche et sa poitrine lui semble trop lourde. Mais il a l'esprit clair. Brady s'est soit rasé, soit coupé les cheveux ras et a teint ce qui reste. Il a pu se tartiner de fond de teint pour se brunir ou mettre des lentilles colorées ou des lunettes. Mais même avec tout ça, il resterait quand même un homme seul assistant à un concert destiné à des fillettes. Après le signalement fourni à Windham, Hartsfield n'aurait pas manqué d'attirer l'attention et les soupçons. Et il y a les explosifs. Holly et Jérôme sont au courant. Mais Hodges en sait plus. Il y avait aussi des billes de roulement. Sans doute un paquet. Même s'ils ne l'ont pas appréhendé à l'entrée, comment Hartsfield a-t-il pu introduire tout ça à l'intérieur? La sécurité est donc si mauvaise que ça, ici? Gallison l'attrape par le bras gauche, et quand il le secoue, Hodges sent la douleur remonter jusque dans ses tempes.
« J'y vais! » Je trouve le premier type de la sécurité et je lui dis de passer un appel à Windham pour qu'il descende ici vous parler.
« Non, » dit Hodges, « vous n'allez pas faire ça, monsieur. » Holly Gibney est la seule à y voir clair parmi eux. Mr. Mercedes est à l'intérieur. Il a une bombe et c'est seulement par la grâce de Dieu qu'il ne l'a pas encore actionnée. Il est trop tard pour la police et trop tard pour la sécurité du Mac. Il est même trop tard pour lui. Mais... Hodges s'assoit sur une caisse vide.
« Jérôme, Holly, venez ici. »
Ils lui obéissent. Jérôme a les yeux révulsés. Il réprime difficilement sa panique. Holly est pâle, mais calme extérieurement.
Il ne s'est pas contenté de se raser. Il a dû se donner l'air inoffensif. Je crois savoir comment il a fait. Et si j'ai raison, je sais aussi où il se trouve.
« Où ?» demande Jérôme. « Dites-nous !» On va le choper, nous. On va le faire.
Ça ne va pas être facile. Il doit être en alerte rouge en ce moment, à surveiller son périmètre de sécurité. Et il te connaît, Jérôme. T'as acheté des glaces à son foutu camion de Mr. Delis, tu me l'as dit.
Bill, il a vendu des glaces à des milliers de gens.
Sûr. Mais à combien de gens noirs dans le West Side?
Jérôme se tait. Et maintenant, c'est lui qui se mordille les lèvres.
Quel genre de bombe? Demande Gallison. « Je devrais peut-être déclencher l'alerte incendie ?»«
Si vous voulez faire tuer tous ces gens, ouais, » dit Hodges. Il lui devient de plus en plus difficile de parler.
« À la seconde où il percevra le danger, il fera sauter tout ce qu'il a. C'est ce que vous voulez ?»
Gallison ne répond pas, et Hodges se retourne vers les deux improbables coéquipiers dont Dieu, ou quelque destin facétieux, a ordonné la présence à ses côtés ce soir.
On ne peut pas prendre de risques avec toi, Jérôme. Et on ne peut sûrement pas prendre de risques avec moi. Il me traquait déjà bien avant que je sache qu'il existait.
Je l'approcherai par derrière, dit Jérôme. Je le prendrai par surprise. Il ne me verra pas dans l'obscurité.
S'il est là où je pense qu'il est, t'as pas plus de 50% de chances de réussir. C'est pas assez sûr.
Hodges se tourne vers la femme à la chevelure grisonnante et au visage d'adolescente névrosée.
Ça doit être vous, Holly. À l'heure qu'il est, il doit avoir le doigt sur le détonateur. Et vous êtes la seule qui puisse l'approcher sans être reconnue.
Elle couvre sa bouche meurtrie d'une main
mais cela ne suffit pas. Alors elle ajoute l'autre. Ses yeux sont dilatés et humides. Dieu nous vienne en aide, songe Hodges. Ce n'est pas la première fois que cette pensée lui vient concernant Holly Gibney.
Seulement si vous venez avec moi, dit-elle entre ses mains. Peut-être qu'alors...
Je ne peux pas, dit Hodges. Je suis en train d'avoir une crise cardiaque.
Ah, génial, grommelle Gallison. Monsieur Gallison, y a-t-il une zone handicapée? Il doit bien y en avoir une. Bien sûr, à mi-hauteur de l'auditorium.
Non seulement il a réussi à entrer avec ses explosifs, se dit Hodges, mais il est parfaitement bien placé pour faire le maximum de victimes. Il dit « Écoutez-moi, vous deux, et ne me faites pas répéter ».